Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. À l'accoutumée, la Ferrarock vous fait découvrir cette semaine deux albums, Inner Battles par le trio Mad Foxes et 2024, Année du Dragon par les Johnny Mafia. La carte blanche de la semaine est donnée à Jean-Pierre Marsal. Après avoir exploré la noise, l'indus et ce qui gravite autour, le Stéphanois revient, sans machine, mais avec une guitare acoustique, pour sortir l'album « Je me réveille en solde ». Interview et live à retrouver en fin d'émission. Mais tout de suite, direction les studios de Jet FM à Nantes pour l'interview de Lucas, chanteur et guitariste du trio de post-punk Mad Foxes.
C'est le morceau d'ouverture du disque Inner Battles, qui est le troisième album des Mad Foxes. On est ensemble dans les studios de Jet FM à Nantes et pour les radios de la Ferrarock pour parler de ce troisième album en la compagnie d'un tiers du groupe, Lucas. chanteur-guitariste, bonjour.
Salut.
Et un petit coucou aux deux autres.
On les embrasse très fort.
Donc Eli, qui est batteur.
Ouais, c'est ça. Batteur et vocaliste aussi. Il fait les chœurs dans le groupe. Et Arnaud, qui est bassiste.
On vient d'écouter le morceau d'ouverture qui est extrêmement accrocheur. Tu me diras, il y en a plein d'autres dans le disque qui auraient pu faire cet effet-là, mais il a quelque chose d'assez particulier, ce Other Hand. Et peut-être qu'avant de rentrer dans le détail de ce troisième album, de sa conception, de l'écriture même des morceaux, on peut commencer presque à l'envers et commencer par l'organisation d'un disque, comment on organise un disque. Il est presque conçu de mon point de vue comme un vinyle face A, face B, avec des moments, des points d'accroche, des moments de tension, et puis des moments plus doux qui concluent chacune des deux faces, on pourrait dire. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ?
Ouais, totalement. En fait, c'est venu tard quand même, le processus de découpage de l'album et de mise en ordre des morceaux. On a d'abord commencé par avoir tous les morceaux, puis se demander comment on allait le mettre en œuvre. Mais quand on a dessiné la tracklist de l'album, on a vraiment découpé ça en se disant il faut qu'il y ait une face A et une face B, parce que pour nous, c'est important à la fois pour les gens qui écoutent des vinyles et aussi tout simplement pour le rythme d'un album, pour qu'il y ait une cohérence. Et cette dualité-là, elle est importante aussi dans les thématiques de l'album. Donc c'est vrai qu'on y a beaucoup pensé. Très vite, on a su que The Other Hand, ce serait le premier morceau. Très vite, on a su quel morceau serait plus ou moins dans la face A, plus ou moins dans la face B. Et après, y a toujours des débats très longs sur quel morceau va aller à quel endroit, mais on a fini par être d'accord et arriver à un consensus et pas un compromis, donc ça c'était cool.
Il y avait, comme ça peut-être dans l'imaginaire collectif du groupe, certains disques cultes justement qui sont construits de cette manière-là, avec ces deux faces, avec ces points de tension, ces points de tranquillité.
Ouais, en fait plein d'albums des années 70 à ce qu'on écoute maintenant. Il y en a pas mal. Moi, il y en a un qui est pas dans les inspirations du groupe, mais dans les miennes. C'est American Idiot de Green Day, qui est un des premiers albums que j'ai écouté en étant ado et qui est justement une espèce d'opéra rock foutu comme ça. Vraiment, c'est chaque acte a sa place quelque part. Et j'ai toujours trouvé ça trop cool de faire ça. Déjà, sur Ashamed, l'album d'avant, on avait un peu aussi ce délire-là. Mais on l'a peut-être un peu poussé là, un peu plus, quoi. En tout cas, c'est important pour nous et plein de nos inspirations ont ça dans leur dynamique, donc c'est cool.
Et le morceau d'ouverture, il est très important, c'est la première impression qu'on donne aux auditeurs, aux auditrices. On pourrait dire ça aussi du dernier morceau qui laisse une impression. Mais là, il y avait beaucoup de débats, ou vous saviez d'emblée que c'était ce morceau, comme tu disais,
Zéro débat là-dessus. Quand on l'a écrit, quand on l'a enregistré, quand on a reçu les premières versions de mix, on s'est tout de suite dit non, mais c'est sûr que c'est lui le premier. C'est sûr parce qu'en fait, on voulait envoyer un espèce de boulet entre guillemets en premier, c'est-à-dire un morceau agressif et qui rentre dedans direct. Parce que sur l'album d'avant, on avait une intro très lente et très construite et on n'avait plus envie de ça, donc on voulait vraiment que ça arrive pleine balle. Et l'intro de The Other Hand, il n'y a pas plus pleine balle que ça dans l'album, quoi. Donc on s'est dit très vite, c'est cool. Et après l'explosion de l'intro, il y a une espèce de recentrage et de remise un peu plus en question, un peu plus deep des textes et tout ça. Donc très vite, on s'est dit « Ah, c'est vraiment chouette de poser ce mood-là. »
Ça met une certaine pression aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau d'emblée. Et après, ouais. Comment est-ce qu'on joue la suite ?
Ouais, c'est sûr. Après, on espère toujours qu'un album soit assez égal dans la manière dont il est écrit et qu'il n'y ait pas deux morceaux qui soient forts et tout le reste en dessous. Donc là, on était assez contents. On a fait du tri en amont parce qu'on avait plus de maquettes et tout. Et la grosse dizaine de morceaux, on était sûr qu'elles avaient leur place, leur histoire à raconter. Donc peu importe comment ça allait se dérouler, ça trouverait son chemin à travers l'album.
Alors justement, il y avait plus que ces morceaux pour le disque. Comment on met de côté certains de vos bébés ? Est-ce qu'ils restent dans des tiroirs pour des EP plus tard ? Est-ce que c'est des bonus pour les concerts ? Est-ce que c'est quoi ?
Je pense que ni l'un ni l'autre, malheureusement, c'est une fois que le processus de création est passé, c'est des morceaux qui sont des phases B et qui soit ressortiront dans une potentielle édition limitée ou un jour. soit seront pas exploités, mais en tout cas on a du mal à se dire que des morceaux qu'on n'a pas utilisés pour l'album seront utilisés pour un album plus tard, parce que ça veut dire que déjà de base ils étaient pas assez bons pour cet album là donc c'est compliqué de les envisager pour un album futur si on estime que l'album futur sera toujours meilleur que celui qu'on a fait entre guillemets quoi. En tout cas plus abouti. Donc très vite on se dit non, on peut pas garder ça pour la suite. Pour le live, ça nous est arrivé de garder des faces B en live parce qu'elles sonnaient bien. Mais du coup, maintenant qu'on a trois albums, là, en fait, les faces A se suffisent à elles-mêmes. Genre, il y a déjà une trentaine de morceaux dans lesquels choisir. Donc non, c'est juste des morceaux qu'on a adorés, mais qui, pour nous, n'étaient pas assez consistants, quoi. Mais c'est un crève-cœur à chaque fois. En plus, des fois, c'est des morceaux qui sont le morceau préféré d'une personne, mais que les deux autres ont du mal à voir sur l'album et tout. Donc, c'est un jeu de dupes, faut réussir à se convaincre sans se travestir non plus et c'est compliqué, mais on est très content des morceaux qui sont dessus là.
Oui, mais parce que tu dis sur ces morceaux écartés qu'ils étaient pas assez bons. Or, ils sont peut-être juste pas au bon moment, au bon endroit, mais ils sont peut-être tout à fait bons.
Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est exactement ça. C'est une question de contexte en fait. Et puis c'est une question aussi de cadre, parce qu'on peut pas faire, on n'avait pas envie de faire un album de 15 morceaux. Les gens s'ennuient au bout d'un moment. Donc nous, on aime bien les choses quand elles sont bien faites, le bon timing et tout. Et on se disait, bon, ce cadre-là est à respecter. On a 16 morceaux, faut qu'on en ait 12 ou 11 ou 13, je ne sais plus exactement. Donc faut qu'on en dégage 3 ou 4. Et c'est presque un peu un luxe de pouvoir dégager des morceaux d'un album. Ouais. Même s'ils sont super bons, c'est cool.
La durée, c'est important. Une quarantaine de minutes, pas plus.
Ouais. Ah, on fait une musique qui est quand même assez intense et violente, même s'il y a pire hein, dans post-hardcore, il y a plein de styles bien, bien plus violents, mais même en concert aussi, on se dit souvent, de plus en plus là, on n'a pas envie de jouer 1h15, on n'a pas envie de jouer 1h30, on trouve que les gens peuvent fatiguer, et en fait, si notre propos est moins lisible et si ce qu'on raconte est moins entendu, ça ne nous intéresse pas, donc on préfère avoir quelque chose de entre 45 minutes et 1 heure, et sur album pareil, entre 40-45 minutes. Je trouve que ça a plus d'impact.
Je vous ai vu en concert il y a pas mal d'années maintenant, mais c'était très 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 impressionnant. Il y avait une énergie absolument dingue, un son que je trouvais assez terrible et que j'avais pas retrouvé à l'époque sur l'album, pas exactement. Donc j'imagine que ça, c'est un enjeu important quand vous enregistrez, retrouver ce son live, en tout cas peut-être arriver au plus proche. Et est-ce que les morceaux, avant d'être enregistrés, avant d'arriver sur un disque, vous les testez live? Est-ce que justement l'efficacité d'un morceau, sa potentielle place dans le disque, elle va aussi avoir un écho par rapport à sa place dans le live?
Ça nous arrive, mais on est hyper précautionneux parce que on a conscience que si on essaye un morceau en live et qu'il marche pas, parce que les gens, pour x ou y raison, n'ont pas pris sur le moment, ça peut avoir un impact important et peut-être même trop important sur le morceau. Mmh. Alors qu'en fait, des fois, il y a des morceaux qui marchent sur album et pas en live. Donc c'est un peu comme envoyer un soldat en première ligne, quoi. C'est genre ça se trouve il va se faire défoncer le morceau alors que nous on est persuadé qu'il fonctionne. Donc on l'a fait avec Gourou, je crois, sur cet album là et on l'a fait avec You'll Never Be Fine, il me semble, avec YNBF, je crois, et on était très contents du résultat. C'est aussi important pour nous de tester des nouveaux morceaux parce qu'au bout d'un moment on peut un peu s'ennuyer à faire tout le temps les mêmes morceaux. Mais on va dire que c'est pas constitutif de si on va le garder ou non dans l'album, la réaction des gens de prime abord, parce qu'on sait aussi que le temps qu'on les enregistre et le temps qu'ils prennent vie dans l'album, peut-être que nous-mêmes on aura accédé à une manière de les jouer qu'on n'avait pas au moment où on les a essayés en live. Et moi par exemple, le morceau YNBF, typiquement j'ai mis du temps à y accéder, et grâce à l'album, grâce au mix, grâce au travail de résidence et à la préparation du live, là aujourd'hui je pense y accéder comme j'avais envie d'y accéder, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. J'aurais pu un peu passer à côté du propos, bizarrement. Donc, mais oui, ça nous arrive de les tester en live. Ouais.
Et pour l'enregistrement, est-ce que vous tentez de vous rapprocher de l'énergie live? Ouais. Avec en plus cette joie communicative, en tout cas c'est comme ça que je l'avais ressenti en vous voyant.
Ouais, complètement. Ce qui se passe à l'enregistrement, c'est qu'il y a Eli, notre batteur, qui fait ses prises de batterie, qui sont les premières prises qu'on va garder. Et nous, avec Arnaud, on joue en même temps. Et la plupart du temps, si les prises sont bonnes, guitare, basse, on les garde et après on les réampe, c'est-à-dire qu'on renvoie le signal dans des amplis plus forts pour pouvoir à la fois avoir un très bon son isolé de la partie de batterie et en même temps avoir l'énergie du jouage quand on a joué sur la même prise que notre batteur. Donc déjà, ça, cette approche, elle est très live parce qu'il y a plein de groupes. Plus on va avancer dans des groupes qui sont produits et tout, plus les pistes vont être faites une par une. D'abord la batterie, après la basse, après la guitare. Et c'est vrai que la plupart du temps, excepté les solos ou les parties un peu différentes, on essaie de garder ce noyau dur là à 3. Et après, moi, je fais le chant parce que c'est dur sur des prises. Il y avait des groupes comme Rage Against the Machine qui arrivaient à faire ça, mais bon, il y a un chanteur et un guitariste, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc là. De toute façon, un power trio, être 3, c'est déjà avoir cette espèce d'énergie du live, quoi. Et dans notre approche de l'album, même si on essaie d'aller de plus en plus dans la production et dans pousser loin les curseurs de rajouter des éléments, aller mixer dans tel sens et tout, le noyau dur de nous trois, Arnaud, Eli, Lucas, genre, ça c'est toujours très très live dans l'esthétique et dans l'approche. Ouais.
Ça veut dire qu'après 3 albums, j'imagine que vos oreilles aussi progressent dans votre approche du son, dans la précision que vous voulez apporter, selon, en plus, j'imagine, le répertoire, les morceaux. Est-ce que là aussi, il y a des exemples, des références qui peuvent vous servir de balises, de repères au fur et à mesure de vos enregistrements, et peut-être aussi les gens qui vous entourent, qui sont importants pour capter tout ça?
Ouais, bien sûr. Déjà, nos références, c'est les influences, c'est ce qu'on écoute au moment où on fait un disque, et souvent on est un peu baigné par ce qu'on est en train d'écouter. Et c'est vrai que là, sur l'album, on avait pas mal de références. Il y a Fontaine d'ici qui a sorti un album, Skintifia, qui nous a beaucoup inspiré, notamment au niveau de la production. Les morceaux sont fantastiques, mais on trouvait que la prod était vachement bien faite. Il y a des groupes français aussi. On avait une liste qu'on a envoyée à Joris, qui a mixé l'album, de plein de références. Et il y a un groupe qui s'appelle You Said Strange, qui est un groupe normand, qui a un son genre trop trop chouette et qui nous a vachement inspiré. Des groupes comme Metz qui sont pour le coup bien plus sales et bien plus avec des choses beaucoup plus brutes. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait qu'on on regarde des modèles qu'on a en essayant de se rapprocher de leur expertise et de leur savoir-faire, en se disant que c'est toujours bien d'avoir des petits phares dans la nuit comme ça pour avancer. Et que, en fait, si on veut révolutionner la musique en faisant en sorte qu'on ait aucune influence, aucune inspiration, machin, ça marche jamais, et qu'il y a des gens qui nourrissent notre créativité tous les jours. Donc c'est important aussi de se nourrir continuellement, quoi.
On vient pas de nulle part.
Exactement, exactement. Il faut assumer aussi de dire, ça c'est chambé, on a essayé de se rapprocher de ça. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on plagie quoi que ce soit au niveau de la production, au niveau de nos... Tant que l'honnêteté est là, pour moi, les influences sont hyper importantes, quoi.
Thank you. a day. Empty like a house when you're never coming back, when you're never coming back again.
Sens est une commune située à une centaine de kilomètres de Paris. C'est également le haut lieu de rencontre du groupe Johnny Mafia. Après 3 albums remarqués, le Quatuor célèbre l'année du dragon avec un opus de 10 titres et une release partie le 5 avril à la Maroquinerie. On retrouve le groupe en interview avec Jordan de Radio Méga.
C'était Green Eye de Johnny Mafia, extrait de 2024, Année du Dragon, leur nouvel album qui vient de sortir sur le label bordelais NMAS, autrement dit Nouveau Monde Artiste Service. Johnny Mafia, ce sont 4 garçons originaires de Sens, dont le rock garage est devenu au fil du temps et de centaines de concerts fiévreux une référence actuelle de la scène rock française. Ils ont accepté de mettre leur semaine de répétition en pause pour répondre à mes quelques questions. Merci et bonjour les Johnny Mafia, c'est Enzo et William qui sont là.
C'est ça, salut.
Salut.
Alors comme je le disais, on vient d'écouter Green Eye et son dédale de solo de guitare. Je m'attendais presque à vous découvrir maquillé comme les groupes de hard rock là, des années 80. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur ce titre ?
C'est vrai que le côté hard rock années 80, on l'a particulièrement bossé sur ce morceau. C'est la première fois, je crois, qu'on fait un solo de guitare aussi construit avec une place aussi importante. Non, il y a ça, et puis en vrai, c'est pas tellement hard rock le morceau, c'est plus...
C'est juste le passage, quoi.
Oh, c'est une joke, hein.
Un passage marrant, et, non mais parce que ça marche, c'est un peu ça. Mais sinon, ouais, c'est un des titres les plus, on va dire, californiens de l'album. Et ouais, et puis il y a des nouveautés par rapport à ce qu'on faisait avant aussi, des petites percussions, des petits ajouts dont on est fiers.
Bah justement, on en parlera, ça, puisque je l'avais relevé. Mais je vous propose d'enchaîner sur justement cet album. Qu'est-ce que c'est, ce nouvel album ? Il s'inscrit carrément dans son temps, rien qu'avec son titre, hein, 2024, Année du Dragon. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire, ce qu'il représente pour vous ? Vous avez l'air plus énervé que d'habitude dans cet album, non?
Ah ouais? Bah, peut-être le son.
C'est le son,
ah
ouais.
Ouais. Bah ça, c'était la volonté de départ pour l'enregistrement de l'album. Après, pour ce qui est de l'album en lui-même, on fonctionne comme on a toujours fait, enfin, dans le sens où on conçoit pas spécialement un album. On fait des chansons et puis après, elle forme un album. Et on fait chronologiquement, on laisse pas des chansons de côté en se disant que ça ira mieux avec dans un autre album, par exemple. Et bah là, oui, la nouveauté, c'était une ambition au niveau du son, d'être un peu plus percutant, plus produit, plus... Ouais, enfin... Ouais, plus qualitatif.
Ouais, ouais.
Oui, je disais pas énervé pour dire que vous aviez perdu en qualité, hein, pas du tout.
Ah, non, bien oui, sûr. Oui. Non, non, mais du coup, ouais, mais ça peut rendre le côté plus énervé ouais. Au niveau
des intensités du son, ouais. entre les couplets, les refrains, les différences de dynamique, tout ça.
Mais il y a aussi, oui, son lot de tendresse.
Oui, il finit sur un morceau hyper tendre, très langoureux comme ça. alors, parlez-nous un peu plus là, de ces nouveaux horizons musicaux dont vous parlez. Là, vous rajoutez plein de petites choses. Comment ça vous est venu, cette envie là? C'est venu tout seul, naturellement? Vous écrivez des morceaux comment là, en tournée? Ou vous faites des grandes répètes?
Là, la grande majorité des morceaux, c'est Théo qui les a composés, Théo le chanteur, de son côté. Et après, on les arrange ensemble ou on les finit ensemble, selon le morceau. Il y a plus ou moins de travail collectif. Et tout ce qui est les petits ajouts, ça c'est venu petit à petit. On a déjà fait des pré-enregistrements ici à Sens, dans notre ville, dans notre studio d'enregistrement et de répétition. Et ça nous a permis de travailler un peu plus les morceaux en profondeur pour ensuite, une fois arrivé au studio à Belleville chez Francis Cast, avoir tout ce qu'il nous fallait ou presque. Et lui, après, a mis sa petite couche aussi d'idées.
C'est important, le producteur avec qui vous travaillez, vous lui donnez beaucoup de confiance pour retravailler les morceaux avec vous?
Bah là, particulièrement, ouais. Plus que...
Après, pour nous, ça paraît beaucoup, mais au niveau des structures des morceaux, oui. des lignes de chant et tout, tout est déjà fait en arrivant. Mais... on laisse quand même de la marge. Ouais.
Sur le son, ouais.
Sur le son, on lui faisait confiance, on lui a donné nos envies, en gros. Et après, c'est lui le connaisseur. Quoi.
Ça les fait beaucoup évoluer, vos morceaux, quand vous travaillez comme ça avec quelqu'un à qui vous les confiez quelque part? Ouais.
Peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont vraiment pris. Enfin, qu'on a rendu vraiment mieux et on était vraiment satisfait du résultat plus que
ce qu'on attendait.
Que ce qu'on attendait, ouais.
Et nous, on a toujours fait des morceaux avec l'optique du live, des concerts. Et certains, on se demandait comment ils allaient rendre en enregistrement. Et il y a tout un tas de petites choses qu'on fait qu'ils sont aboutis. On les trouve aboutis, et notamment grâce à Francis.
Alors, je vous propose qu'on revienne à cet album qui s'appelle quand même 2024, Année du Dragon. J'aimerais bien quand même que vous me racontiez pourquoi vous l'avez appelé comme ça et puis que vous me parliez aussi de cette imagerie et du délire culinaire. Alors, on se croirait un peu à une réunion Tupperware quand même, je trouve, quand on regarde la pochette et puis les quelques visuels qui l'accompagnent.
Tu soulignes le manque de cohérence, c'est ça?
Non, je trouve ça drôle en fait. Je trouve ça vraiment rigolo et je me dis, ils font ce travail-là sur l'imagerie, l'esthétique, et j'imagine que c'est quelque chose que vous faites ensemble comme vous faites la musique.
Bon, on fait plus confiance. Là, on a demandé au frère Tancho,
des amis de Sens, et de Paris,
qui avait fait la photo de l'album précédent. Et
comme on aime bien ce qu'ils font, ouais. On leur a demandé de... Enfin, on a réfléchi ensemble à une composition pour la pochette de l'album.
On a ramené l'idée du chien, parce que en fait, c'est des chiens qui traînaient à Belleville à côté du... Enfin, qui traînaient. Une dame qui a trois chiens, qu'on voyait à Belleville tous les jours, quasiment.
Et pendant qu'on enregistrait.
Pendant qu'on enregistrait, ouais.
Le studio étant à Belleville, du coup.
Ouais.
Et puis voilà, du coup, on leur a dit, y a ces chiens-là, si vous avez une idée avec ça... Et puis, ils ont ils ont fait quelque chose, quoi. Et ça rend plutôt pas trop mal.
Pour le côté cuisine à l'intérieur de l'album, les visuels, c'est Chloé, qui, ouais. la copine de Fabio, qui a bossé avec lui et qui a eu des super idées, qui ont fait des trucs qu'on adore. Et pour revenir aussi au nom de l'album, à la base, on trouvait pas d'idée. Et puis, il y avait l'idée Zodiac du nom, comme nom d'album qui nous revenait de temps en temps. Ça nous faisait rire. Ça pouvait être un bateau autant que les signes astrologiques. Et puis, je sais plus, ouais, dans le quartier du studio d'enregistrement, on se demandait, mais au fait, c'est quoi le signe astrologique chinois de l'année prochaine? Et c'était 2024, année du dragon. Voilà, c'est tout. Ça sonne bien.
Et puis voilà, bah, parfois, il ne faut pas aller chercher plus loin que le pas de sa porte. Hein. Alors, bah, je vous propose d'écouter à nouveau un morceau extrait donc, de 2024, année du dragon, votre nouvel album que soutient la Ferra Rock. On va écouter le morceau qui est très 90s, je trouve, Cyanide. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore une fois? Comme je le disais plus avant, quand même, je trouve que vous êtes un peu énervé comme des hardos. Mais ça me fait rire, hein, je trouve ça chouette.
Bah, pour le coup, c'est, je pense, le morceau ou un des deux morceaux les plus énervés de l'album. Ouais. C'est le plus punk, le plus à l'ancienne, du coup, pour le coup, du groupe. Enfin, qui ressemblerait plus à des vieux morceaux de Johnny Mafia.
Il raconte quoi? Ouais, ce serait Théo qui serait le mieux placé pour en parler, peut-être.
Ouais, je crois que c'est des d'extraterrestres et de poison. Enfin, ouais, de toute façon, ça. Globalement, il s'amuse avec les textes, mais c'est pas ce qui. Le sens de ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'il cherche le plus à mettre en
avant. Bon, on écoute tout de suite le morceau Cyanide, donc, de Johnny Mafia. Toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Nous venons d'écouter Cyanide de Johnny Mafia, dont l'album 2024, Année du Dragon, est mis à l'honneur cette semaine par les radios de la Ferrarock. Je suis toujours avec Enzo et William via les internets pour encore parler quelques instants. Alors, le communiqué de presse que j'ai reçu et qui accompagne 2024, Année du Dragon, annonce la couleur et nous invite à nous préparer pour une Année du Dragon intense et inoubliable avec Johnny Mafia. Qu'est-ce que vous mijotez ?
Toi, je connaissais pas
des concerts en notre copain compagnie,
de la pyrotechnie.
Non, ça serait notre rêve. Wow, les machines à flammes, mais bon, malheureusement, on n'en est pas encore là.
Bah, la machine à fumer, c'est déjà pas mal, non?
Ouais, mais la machine à flammes, c'est quand même mieux.
Ouais. Est-ce qu'on concocte? Oui, non, sinon, c'est beaucoup de concerts à venir. Et notamment à l'étranger, on va de plus en plus souvent en Espagne et on va découvrir le Portugal bientôt.
Ok, cool. Vous franchissez pas encore l'Atlantique ?
On l'a fait une fois.
On l'a fait, ouais.
Et on avait aussi eu la chance, en parlant de destination lointaine, d'aller en septembre dernier,
en octobre, septembre, ouais.
Septembre, d'aller en Corée du Sud pour quelques concerts.
Ah, waouh.
Ouais.
Ça, peut-être que c'est relié, finalement, 2024, l'année du dragon, tout ça, ça fait un...
Ça a infusé, voilà, ça, on s'est imprégné.
Et justement, bah alors là, vous venez de changer de label, vous étiez chez All In Banana, alors ils restent quand même dans l'histoire parce qu'ils vont distribuer le disque, mais vous êtes chez NMAS, alors je le disais, je l'ai dit en intro, c'est Nouveau Monde Artistes et Services à Bordeaux. Comment ça se fait que vous avez changé de, bah, d'écurie ? Vous avez rencontré...
C'est que Nouveau Monde, c'est un nouveau label, mais c'est qui est, comment dire, relié. C'est les mêmes personnes que notre tourneur 3C. Et du coup, comme ils prennent déjà soin de nous pour nous trouver des concerts...
Ça faisait sens.
Voilà.
Bon, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Ça passe toujours super vite. Avant de se dire au revoir, j'aimerais bien que vous me donniez quelques noms de groupes de filles que vous aimez écouter en ce moment et à qui vous aimeriez donner un peu de lumière.
Groupe où il n'y a que des filles ou groupe où...
Plutôt que des filles. Après, si vous n'en connaissez pas avec que des filles, il peut y avoir un garçon, c'est pas grave.
Je demande ça parce qu'on est très fan de Jenny Carwash.
Oui, il y a une chanteuse.
Ouais, oui. Mais c'est vrai qu'on la voit beaucoup et qu'elle est beaucoup mise en avant. Mais je pensais bien que vous alliez citer Jenny Carwash.
Après, justement, si tu poses cette question de cette manière-là, c'est parce que c'est compliqué d'en sortir.
Ouais. Bah oui.
On avait joué avec Madame au Bikini à Toulouse. J'avais bien aimé. Ouais. Perso.
Mais bon, je vais pas citer les L7, là.
Non, c'est un peu vieux. Bon, c'est toujours cool quand même. Hein, mais à Sens, il n'y a pas de groupe de filles, là, actuellement
Si, il y a les Blinds. C'est deux filles et un mec.
Deux filles et un mec. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Les Blinds à écouter. Ouais. À venir voir à Sens, la capitale du monde.
À la fête de la musique cette année.
Vous allez jouer à Sens d'ailleurs là ?
Il y a des chances. C'est dans les tuyaux. On ne peut pas encore confirmer.
Ok. Et vous allez partir en tournée là ? Peut-être on peut terminer là-dessus. Vous partez bientôt en tournée ? Vous parliez de l'Espagne, du Portugal.
En fait, comme on fait des concerts surtout 2-3 jours de suite, c'est sur une période. Longue, on tourne. En fait, on s'arrête jamais quasiment.
Eh ben, écoutez, je pense qu'on trouvera facilement les infos sur les internets pour trouver le concert, votre concert le plus proche de chez nous, en tout cas. Merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle que votre nouvel album 2024, Année du Dragon, sort donc chez NMAS et qu'il est soutenu par le réseau des radios de la Ferrarock. Merci les gars et ciao.
Ciao, merci beaucoup.
Jean-Pierre Marsal n'est plus de sang de project, il est lui-même et il va nous faire le plaisir de nous offrir un petit live acoustique avec une choriste en featuring.
Je suis dans cette ville depuis si longtemps que je n'y connais plus personne. Ces murs sont sourds à mon mal de dents, mais de jolis souvenirs y résonnent. Je ne demande pas mon chemin, je ne demande où sont les gens que j'ai connus sur le chemin que je parcours de temps en temps. Mais je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne. De quelques vies se déroulent au gré de ces lieux familiers, et je devine parmi la foule quelques silhouettes accoutumées. Il y avait là un cinéma, il y avait là un petit café, à la place un parc ou une villa, et quelques silhouettes accoutumées. Mais je ne connais plus personne. 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 Et j'ai voulu aller lui parler, mais finalement ce n'était qu'un mirage. De commun nous n'avions que le passé. Je ne demande pas mon chemin, je me demande où sont les gens que j'ai connus sur le chemin que je parcours de temps en temps. Mais je ne connais plus personne. Mais je ne connais plus personne. Mais je ne connais plus personne. Mais je ne connais plus personne.
On est donc avec Jean-Pierre Marsal pour la sortie de cet album « Je me réveille en solde », une figure incontournable de la musique underground stéphanoise, puisque sur la page Bandcamp qui recense une partie de ta carrière, j'imagine qu'il y a des objets perdus, c'est le 42e album depuis 1998.
Ouais, ça nous rajeunit pas.
En tout cas, donc beaucoup de sorties très éclectique. Alors, s'il faut mettre des étiquettes dans tous ces virages, il y a de la musique industrielle, expérimentale, ambiante post-rock, hardcore, garage, un petit peu toutes les sphères du rock, du rap aussi. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas fait et qui te restent à faire et que tu regrettes ?
Alors non, je regrette rien. Ce qui me reste à faire, il me reste en plein de morceaux à écrire, guitare, voix. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate beaucoup en ce moment, et je crois que c'est parti pour durer, quoi.
Parce que il y a une esthétique un petit peu du rock'n'roll qui est passée quand même beaucoup par le fait de remâcher un petit peu les influences anglo-saxonnes. Toi, t'as vécu ça comme ça aussi. Il y a un moment, c'était pas vraiment possible de chanter en français, j'ai l'impression. Il y a 20 ans.
Je sais pas. La question se posait pas. Maintenant, j'aurais tendance à dire pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, de chanter en français. Il y a 20 ans, c'était l'expérimentation. On voulait essayer plein de choses. On était plus jeunes. On voulait un peu tout faire, quoi. Voilà. Avec le temps, avec l'âge. C'est plutôt aller à l'essentiel, essayer de faire des choses qui soient simples mais efficaces, sans artifice, sans couches et couches de machines, de choses comme ça, quoi.
En même temps, t'as passé plusieurs dizaines d'années à expérimenter aussi le son, les couches. J'imagine que tout ça, c'est aussi ce qui forge le fait de réussir à assumer la dépouille.
Oui, oui, puis il y a aussi un côté, au moment, l'impression de faire le tour de tout ça, quoi. Donc, j'avais pas l'impression, par exemple, avec 202 Project, j'avais l'impression que c'était fini. Enfin, j'avais plus rien à dire, ou que ça allait être une redite. D'ailleurs, il y a eu un album de transition, qui s'appelle Le Retour à l'âge de pierre, qui est clairement la fin de 202 Project, le début de ce que je fais maintenant, quoi.
Yes, on écoute un deuxième extrait de ce disque et j'ai choisi le morceau d'ouverture parce que je le trouve très beau. Tu nous parles un petit peu sur les plaines ?
Alors oui, sur les plaines, c'est j'ai écrit ça au début de la guerre en Ukraine et ça parle de ça.
De là, eh bien, on arrive dans ta discographie à distance, puis les tempêtes, puis je me réveille en solde, et cette épure finalement de la ligne artistique en cours, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, déjà Lise est née. Lise m'a permis de reprendre la guitare à zéro. Je crois que depuis le début, je voulais être une sorte de bluesman, en fait, hein. Et en fait, ça m'a permis de réapprendre la guitare, donc de réapprendre en particulier un peu de picking. J'ai approfondi ma connaissance du blues du Delta pendant le confinement, en particulier de Mississippi John Hurt, parce qu'il a une façon de jouer qui vraiment m'a vraiment scotché, quoi, où on a l'impression qu'il y a plusieurs guitaristes alors qu'il est tout seul. C'était un petit bonhomme très humble en plus, et puis l'avantage c'est qu'on peut maintenant on trouve des vidéos de lui sur YouTube. Dans les années 60, il a fait quelques émissions de télé, enfin il en a fait une en particulier, et donc ça s'est filmé, et là, à le voir jouer, je me suis demandé comment il faisait, quoi. Donc j'ai regardé quelques tutos, j'ai pris la guitare, et puis c'était pratique quand on a un enfant en bas âge d'apprendre ça, et de plus travailler au casque sur des séquences, sur des boucles, des boîtes à rythme, des trucs comme ça, quoi. Donc il y avait un côté plus organique qui allait bien avec, quoi. Et je me suis pris
au jeu. Maternité et retour à la chair, finalement.
Oui, c'est ça, oui, complètement. Ouais. Et puis c'était qu'est-ce que je peux faire quand je garde un bébé, quoi, par exemple. Je vais pas mettre mon casque et jouer du synthé, quoi. Je vais m'occuper de l'enfant, mais en même temps, je peux aussi un peu apprendre la guitare, quoi. Et les deux ont bien marché. jusque-là. Et puis après, je me suis pris au jeu, j'ai un peu amélioré mon picking, et puis j'ai commencé à écrire, quoi. Et puis la suite est venue, effectivement, pendant le confinement, avec le premier album Distance, qui parle un peu de ce qu'on a tous vécu, d'où le titre, quoi. Et puis ça s'est développé, et c'est devenu une... c'est pas une gymnastique, c'est pas le bon mot, mais c'est devenu quelque chose qui... j'écris beaucoup, j'écris souvent, je reviens sur les textes, c'est des fois long, mais j'ai toujours quelques morceaux d'avance. Voilà.
Alors en tout cas, là, dans « Je me réveille en solde », ce dernier album, au niveau des textes, j'ai trouvé, peut-être c'est pas nouveau, hein, tu vas me dire, mais il y avait quand même pas mal de solitude.
Je
parle beaucoup au jeu, il n'y a pas beaucoup de nous, il y a...
Oui, ouais. Parce que de toute façon, c'est les textes, c'est ou toujours quelque chose que j'ai vécu ou quelque chose dont j'ai été le témoin. Voilà, c'est alors après, si les gens se l'approprient et que tant mieux, mais à la base, voilà, c'est vraiment de l'expérience personnelle, quoi. C'est vraiment que ça, quoi.
Ta voix et ta guitare sont très très liées. On dirait que elles s'accrochent tout le temps un peu ensemble, elles suivent beaucoup. Il y a un jeu comme ça, comme si vous étiez un peu un et demi.
Ouais.
Et comme s'il y avait deux prolongements. Toi, t'as l'impression que qui suit qui? D'où viennent tes mélodies, tu vois, tu les trouves à la guitare, non?
Oui, voilà, ouais. C'est ça, oui, ça commence par la musique. De toute façon, ça commence toujours par la musique. Ça commence par une petite boucle, une sorte de riff. Enfin, c'est pas la manière dont je joue, c'est pas vraiment des riffs, puisque j'ai un peu.
C'est pas du tout les accords d'un guitare.
Non, du tout. C'est du picking. Donc, il y a une petite ligne de basse, en général assez minimale, mais qui soutient, qui est un peu la colonne vertébrale du truc. Et puis, quelques notes fluettes qui vont créer la mélodie. Et après, si la musique reste plus d'une semaine, en fait, on va dire, peut-être que je commence à accrocher un mot. C'est la deuxième phase, et puis ce mot, ce sera le début d'une chanson. Après, ça peut être aussi un sentiment. Enfin, la mélodie me fait penser à quelque chose en particulier, et je sais pas encore comment le traduire en mots. Et c'est à force de refaire, j'y reviens, et puis un jour, j'ai la première phrase. Puis des fois ça découle, enfin, après ça devient quatre phrases, une strophe, hein, etc., etc.
Dans le contenu des textes, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup ton intime, du coup. Il a l'air un peu noyé quand même, dans un monde fouillé, il a l'air de subir des tempêtes, des fois on se demande s'il est acteur ou si justement il est juste baladé comme ça, un petit peu ce personnage qui nous parle.
Un peu des deux, hein. Enfin, c'est un peu notre condition à tous, hein, sans faire de prêche ou quoi que ce soit, mais on essaie tous finalement d'avoir un minimum de contrôle sur le monde qui nous entoure, et on n'en a pas vraiment, en fait, au final. Enfin, c'est peut-être une illusion de contrôle, donc on est un peu basculé entre comment on gère la situation et quel est la prochaine truc qu'on prend dans la figure, quoi. Donc voilà, on est un peu dans cet état un peu permanent, quoi. Surtout, en ce moment, enfin, c'est voilà, on est tout. Lise, tu veux faire un morceau avec moi?
Il joue souvent Jean-Pierre à la maison de la guitare?
Oui.
Tout le temps?
Non, pas tout le temps, pas mais tout des le fois. Temps.
Mais des fois. Est-ce qu'il te joue des musiques douces pour que tu t'endormes?
T'as non, jamais... je m'endors toute seule.
Oh, tu t'endors bien, t'as trop de la chance. Et des fois, vous chantez ensemble comme ça ou?
Oui, des fois.
Mais vous avez pas encore fait un groupe, quoi?
Non,
pas officiel, encore. Quoi. Non. Ouais. Tu dois être trop prise, Lise, aussi. Ouais, trop demandée.
Ouais, puis elle a trop de trucs à faire.
Normal. Ouais. C'est normal.
Allez.
C'est l'orage qui arrive. Je l'entends chuchoter sa voix grave dans les cimes, refroidit la chaussée. Je l'entends chuchoter. Je le sens refroidit la chaussée. c'est l'orage que je vois obscurcir le ciel bleu, sa robe noire sur les toits fait frémir même le feu. Je l'entends chuchoter, je le sens refroidir la chaussée. C'est l'orage qui nous vient, il est gros, oui crois-moi, toute la rage qu'il contient finira tout en bas. Je l'entends chuchoter, je le sens refroidir la chaussée. Je l'entends chuchoter, je le sens refroidir la chaussée.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Nous vous présentions Inner Battles, le troisième album des Mad Foxes, sorti le 2 février via El Muchacho Records. 2024, année du dragon par le quatuor de Johnny Mafia, est quant à lui disponible chez NMAS depuis le 9 février. C'est Loïc de Radio Dio qui s'est emparé de la carte blanche cette semaine pour nous présenter un artiste de chez lui, le Stéphanois Jean-Pierre Marsal et son dernier disque « Je me réveille en solde » chez Magnetic Audio. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.